Le capitaine Grimat eut très tôt l'intuition qu'il devait prendre l'enquête à revers, qu'il ne devait pas seulement multiplier les témoins, reconstituer chaque minute de l'emploi du temps de Morgan Avril, mais concentrer au contraire ses efforts sur l'arme du crime, l'écharpe Burberry. Le 19 juillet 2004, le juge Nadeau-Loquet lui envoya un message pour le féliciter des avancées significatives de l'enquête à partir d'une voie en laquelle seul le capitaine avait vraiment cru. Une écharpe. Un bout de tissu à plus de 400 euros. Grimat prit le temps de vérifier tous les témoignages, de recouper l'ensemble des versions, d'éliminer plusieurs dizaines d'informations qui lui semblèrent fantaisistes. Au final, seuls trois témoins crédibles se souvenaient de cette écharpe Burberry. Sonia Thureau, derrière son vestiaire, tira d'abord la gueule au flic poivre et sel qui venait à nouveau l'interroger, puis finit par se rappeler un client qu'elle qualifia de fils à papa. « Bronzé » fut le seul qualificatif qu'elle accepta d'inscrire sur sa déposition. Elle refusa « basané », « maghrébin », « métisse » et tous les autres termes que lui proposa le vieux gendarme.
« Avec la boule à facettes dans la gueule, mon pauvre, si tu crois que j'ai pu mesurer l'épaisseur de son fond de teint ?»
Le fils à papa bronzé avait laissé sa veste en lin et son écharpe en cachemire au vestiaire. Ce genre de costume était plutôt rare dans un festival de rock. Sonia s'en souvenait pour cette raison.
C'était une écharpe rouge, une Burberry.
Elle n'avait pas repéré la marque, mais oui, elle pouvait ressembler à une Burberry. Sonia n'avait pas vu le type repartir. Sans doute qu'une collègue lui avait rendu ses habits, mais aucune ne s'en souvenait. Le capitaine Grimat envisagea l'hypothèse que Sonia Thureau ait inventé ce mystérieux client. L'affaire Avril était rapidement devenue pour les médias l'affaire du tueur à l'écharpe rouge. Rien ne permit de l'affirmer. Quand elle ne tenait pas le vestiaire du casino, Sonia Thureau suivait de sérieuses études de droit européen comparées à Rouen. Et surtout, deux autres témoignages vinrent confirmer le sien. À force d'insister, Mickey, videur intérimaire qui avait passé la nuit du 5 au 6 juin à tourner sur le parking en écoutant le bruit des vagues couvrir celui des rifs, finit par se souvenir de l'ombre d'un type qui fumait près des poubelles du casino, sous la falaise, peut-être bien vêtu d'une veste et d'une écharpe. Il n'avait pas pu distinguer la couleur. Il ne se souvenait pas non plus de l'heure. Après 3 heures du matin, c'est tout ce qu'il pouvait affirmer. Il en était certain à cause de sa pose. Impossible pour lui d'être plus précis. L'ombre se tenait seule, cela, Mickey en était sûr. « Comme si elle attendait quelqu'un ?» demanda Grimat.
« Peut-être. »
« Une fille ?»«
Ouais, ou des potes, j'ai continué ma ronde. »
Mickey n'eut rien d'autre à décrire, juste une silhouette aperçue entre le halo d'un réverbère et le faisceau de sa lampe torche. Sauf que l'heure pouvait fort bien correspondre à celle où Morgan Avril avait quitté le Sea View, sans que plus personne ne la revoie vivante. Vincent Carré, le troisième témoin, 21 ans, étudiant en chimie, était arrivé vers 17h à la gare de Bréauté, arrêt le plus proche d'Yport, sur la ligne de train Paris-Rouen-Le Havre. De là, un autocar devait emmener directement les voyageurs au festival. Vincent comptait profiter du bus pour rejoindre au concert ses potes du club de tennis de table. Pendant une petite dizaine de minutes, il avait attendu à côté d'un garçon de son âge, habillé classe, chemise blanche, pompe vernie, veste sur le dos et écharpe rouge autour du cou. Un look qui détonnait par rapport aux autres festivaliers. Ils avaient échangé quelques mots.
« T'es sapé comme un prince ?» avait commenté Vincent. « Les filles aiment ça, » avait expliqué le prince. « Tu y vas pour la musique ou les filles ?»
Vincent Carré se souvenait précisément de la réponse.
« La musique ou les filles ? T'es sérieux, là ? La bonne musique, c'est rare, mon pote. Et c'est pas à Yport que tu vas trouver le nouveau Hendrix. Mais les filles, waouh ! Les filles sont belles partout !»
L'autocar était arrivé. Vincent ne s'était pas assis à côté du prince, pas vraiment sa tribu. Chacun avait enfoncé son MP3 dans ses oreilles. Fin de l'épisode. Vincent avait revu le type à l'écharpe au Sea View. Il dansait dans la foule et le plus souvent se collait à la plus belle fille de la soirée, Morgane. Même si Vincent ne connaissait pas son prénom à ce moment-là, d'évidence, il la draguait. Il ne portait pas son écharpe sur la piste de danse, mais des dizaines d'autres témoins confirmèrent qu'un garçon tournait autour de Morgane. Océane et Mathieu également, tous, y compris Vincent, se réunirent pour établir un portrait robot. Un beau visage plutôt carré, des yeux marrons, une peau très brune, peut-être même sans certitude, d'origine maghrébine. Un graphiste travailla 2 jours pour aboutir à un portrait robot aussi vague que banal. On le diffusa pourtant beaucoup, partout. Les centaines de réponses, toutes vérifiées, ne donnèrent strictement rien. Le capitaine Grima, d'ailleurs, ne croyait pas à ce portrait. Pas dans la pénombre d'une salle de discothèque, pas à partir de souvenirs précédant le drame, alors que les témoins n'avaient alors aucune raison de graver ce visage dans leur mémoire. Vincent Carré revit l'inconnu à l'écharpe rouge le lendemain matin. C'était l'effervescence dans Yport. Le cadavre de Morgane Avril venait d'être découvert. Les flics quadrillaient le village. Le type attendait place Jean-Paul Laurens devant la boulangerie, la veste sur le dos. Vincent passa devant lui presque en courant, bouleversé par le drame. Il dormait chez lui depuis 2 heures du matin, claqué, et on était venu le réveiller. Une fille morte sur la plage, violée. Il devait d'urgence, comme tous les autres gars, aller donner son identité aux flics, filer son ADN aussi. Quand il passa devant l'inconnu, Vincent Carré ne savait rien de plus de l'affaire. Ni qui avait été tué, ni comment. Le type l'avait salué de la main. C'est lui qui l'avait reconnu. S'il n'avait pas levé la main, Vincent ne l'aurait pas remarqué. Curieusement, ils ne parlèrent pas de la fille morte. Vincent Carré ne sut pas dire pourquoi. La seule explication qu'il put fournir fut que l'inconnu ne donnait pas l'impression d'être au courant ou de s'en foutre.
« Alors, t'as aimé le concert ?» avait demandé Vincent. L'autre avait éclaté de rire.
« Tu parles ?
Et les hypothèses ?
Jolie, très jolie.
J'ai vu ça cette nuit. T'as pas choisi la plus moche ?
Et pas la moins chaude, tu peux me croire ?»
Vincent Carré, sur le moment, l'avait pris pour un frimeur. Il avait aussi remarqué que l'inconnu ne portait plus son écharpe rouge autour de son cou.
« Et ton écharpe ?
Je l'ai laissée à la petite, » fit l'inconnu.
« En souvenir ?
Tu comptes la revoir ?
M'étonnerait !»
Il avait lâché un nouveau rire que les psys firent par la suite décrire à Vincent des centaines de fois, si possible en jouant sur les plus fines nuances. Un rire spontané, forcé, cynique, sadique. Vincent n'en savait rien. Il se rappelait seulement la réponse de l'inconnu à sa dernière question.
« Tu reprends le car ?»
avait insisté Vincent.
« Non, je vais chez mes vieux. Ils ont une résidence secondaire sur la côte normande. »
La clé de voûte de toute l'affaire Morgane Avril. Forcément, on vérifia la crédibilité du témoignage de Vincent Carré. Il semblait fiable, même si les flics s'interrogèrent beaucoup sur le trou dans son emploi du temps. Vincent était parti se coucher vers 2 heures du matin. Il avait laissé ses copains de tennis de table terminer la soirée. Ça ne lui ressemblait pas. Le capitaine Grima lui posa la question. Vincent Carré répondit qu'il était crevé, qu'il avait une semaine dure. Quand on insista, il s'énerva, furieux qu'on le soupçonne alors qu'il était le seul témoin à avoir fait un peu avancer l'enquête. Il avait raison. Grima n'avait aucune raison de soupçonner davantage Vincent Carré que n'importe quel autre client du Seaview. D'ailleurs, son ADN ne correspondait pas à celui du violeur. On chercha donc un garçon d'environ 20 ans dont les parents possédaient une résidence secondaire sur la côte normande. Le capitaine Grima apprit à cette occasion que le littoral normand en comptait plus de 35 000. Dénicher la bonne s'avéra mission impossible, même si des équipes de flics effectuèrent du porte-à-porte pendant des semaines, portraits robots à la main, par cercle concentrique, d'abord les plus proches, Étretat, puis Saint-Valery-en-Caux, puis Honfleur, puis Deauville, Cabourg, Dieppe. Peine perdue. Rien. L'inconnu à l'écharpe rouge s'était évaporé dans la nature. Le capitaine Grima fit son rapport au juge Nadeau-Loquet le 20 août 2004. L'enquête piétinait depuis près de 5 semaines. Aucun fait nouveau, mais la conviction de Grima était acquise. Morgane Avril avait accepté de suivre cet inconnu qui tournait autour d'elle sur la piste de danse. Il avait récupéré sa veste et son écharpe Burberry au vestiaire sans qu'on le remarque, avait attendu ensuite sur le parking que Morgane le rejoigne. Ils s'étaient sans doute baignés en mer ensemble, dans un coin discret. L'histoire avait dû basculer ensuite. Morgane refuse d'aller plus loin qu'un simple flirt. L'inconnu insiste, cela dégénère, il la viole, panique, l'étrangle, la hisse en haut de la falaise et jette son cadavre. Peut-être pour gagner du temps, pour faire penser d'abord à un suicide. Puis il disparaît. Le capitaine Grima, malgré l'absence de suspect à livrer au juge Nadeau-Loquet, avait conclu son rapport sur une note optimiste. L'assassin de Morgane Avril avait été partiellement identifié. Avec le temps, il deviendrait moins méfiant. Quelqu'un pourrait finir par le reconnaître sur la côte normande ou ailleurs. Le capitaine Grima n'avait qu'une certitude, qu'il exprima également dans le dernier chapitre de son rapport. Le meurtrier de Morgane Avril ne recommencerait jamais. Son profil était celui d'un jeune issu d'un milieu aisé, cultivé, éduqué, qui avait commis ce soir-là la connerie de sa vie. Il allait vivre avec ce secret monstrueux enfoui au fond de lui, jusqu'à sa mort. Si on ne le coinçait pas avant. Le rapport de la gendarmerie de Fécamp déclencha la fureur du clan Avril. Carmen Avril et sa famille, par la bouche de leur avocat, s'opposèrent avec violence à la théorie du capitaine Grima. Ils ne croyaient pas à la thèse du fils de bonne famille qui aurait dérapé. Pour eux, l'assassin était un pervers, un prédateur qui avait agi avec préméditation. Leur argument le plus convaincant reposait sur l'attitude de l'inconnu à l'écharpe rouge le matin du drame, celle décrite par Vincent Carré. Le suspect numéro un de Grima attendait tranquillement que ses parents viennent le chercher place Jean-Paul Laurens, sans stress ni panique, alors que des dizaines de flics arpentaient les rues d'Yport. Une telle sérénité ne collait pas avec la théorie de la drague nocturne qui vire au drame. On disserta des heures entre flics, avocats et juges sur les quatre phrases qu'avait rapportées Vincent Carré. « Et ton écharpe, je l'ai laissée à la petite, en souvenir. Tu comptes la revoir ? M'étonnerait. » Pouvait-on les interpréter comme les réponses improvisées par un pauvre type qui venait de commettre un meurtre presque par accident et qui jouait sa liberté à pile ou face, comme celle d'un criminel cynique au terrifiant sang-froid, ou tout simplement comme celle d'un innocent qui pourtant jamais ne se présenterait devant la police. Le capitaine Grima exprima une dernière fois publiquement son opinion le 23 août dans Le Havre Libre. Il ne croyait pas à l'hypothèse du sadique qui se trouve là au bon moment, qui parvient à approcher puis agresser Morgane Avril sans que personne le remarque. Pourquoi alors le bain de mer ? Pourquoi alors l'écharpe Burberry ? Puis, le 26 août 2004, sa théorie vola en éclats. Sa crédibilité aussi. Tout son patient travail, ses nuits de veille hors de chez lui à rater 3 des 6 premiers mois de vie de sa petite Lola, tout cela explosa. Le dérapage d'un adolescent attardé, l'absence de préméditation. En une journée, l'affaire de l'écharpe rouge Burberry se hissa au rang de drame national qui dépassa par son ampleur tout ce que le capitaine Grima avait pu imaginer, qui gonfla, s'envola vers les plus hautes sphères de la justice et de la police, bien au-delà de sa compétence. Le bruit de cloche me tira de ma lecture. Elle cognait en continu comme un tocsin, comme l'appel insistant des marins pour un rassemblement sur le pont. La voix d'André explosa dans le couloir.
« Jamal, on mange !»
J'ai regardé l'heure sur ma table de chevet. 19h17.